Merci d'écouter RFI, les 7h à Goma, 6h en temps universel.
Andréane Mélard.
Plutôt 6h à Paris, 5h en temps universel. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, les réactions internationales qui continuent d'affluer.
États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, ils expriment leur inquiétude alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils opposent armée rwandaise et rebelles du M23 à l'armée congolaise. Journée de doute et de confusion hier aux États-Unis après que Donald Trump a décidé de geler plusieurs centaines de millions de dollars de subventions fédérales. Décision suspendue par un juge. On y revient dans un instant. Au sommaire, également J-1 avant l'interdiction de l'UNRWA en Israël, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Quelles conséquences pour les Gazaouis? Éléments de réponse à suivre. Et puis nous nous intéresserons aussi à Liang Wenfeng. Ce nom vous est sûrement inconnu. Pourtant, c'est le patron de DeepSeek, le chat GPT chinois qui révolutionne l'intelligence artificielle. Son portrait dans ce journal.
Les États-Unis appellent à un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo face à la poussée du M23 dans l'Est.
Appel lancé dans un communiqué qui exhorte aussi, je cite, à ce que toutes les parties respectent l'intégrité territoriale souveraine de la RDC. Hier matin, des échanges de tirs étaient signalés dans la zone de l'aéroport de Goma et d'intenses détonations ont été entendues dans les quartiers Birere et Bijovu. L'après-midi, le calme semblait revenu, mais un calme précaire, alors qu'après 48 heures de combat à Goma, plus de 100 personnes auraient été tuées selon un décompte de l'agence France Presse. Près d'un millier de blessés auraient été conduits dans les hôpitaux de la ville. La situation dans l'est du pays faisait hier l'objet d'une deuxième réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, à qui la ministre congolaise des Affaires étrangères a demandé de désigner clairement le Rwanda, soutien du M23, comme responsable. Et parmi les autres réactions internationales, celle de l'Allemagne qui a décidé de suspendre son aide au développement à Kigali. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Dans l'escalade de la situation actuelle, il ne peut pas y avoir de business as usual. Pour le ministère du Développement allemand, les discussions sur la coopération avec le Rwanda ne pourront reprendre que lorsque Kigali et le M23, je cite, auront mis fin à l'escalade et se seront retirés de l'est de la République démocratique du Congo. L'Allemagne a décidé d'annuler des consultations gouvernementales prévues pour février avec le Rwanda, sans préciser quels étaient les participants. Le ministère du Développement allemand a par ailleurs déclaré se concerter avec d'autres donateurs sur les conséquences à tirer. Lors de négociations bilatérales, Berlin s'était engagé à verser une aide au développement de près de 100 millions d'euros au Rwanda entre 2022 et 2024. Le ministère des Affaires étrangères allemand a par ailleurs qualifié la poussée du M23 dans Goma de violation flagrante du droit international qui sape les efforts de paix. Le ministère a appelé au retrait des combattants et à un libre accès de l'aide humanitaire. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Autre réaction, celle du Royaume-Uni qui exprime sa profonde inquiétude et dénonce l'obstruction par le Rwanda de l'action humanitaire des Nations Unies. Ce sera l'objet de notre appel correspondant depuis Londres après le journal de 7h, temps universel. Avant cela, François Morayon, chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge en RDC, sera notre grand invité international interrogé par Arnaud Pontus. Entretien à suivre dans un peu plus d'une heure.
Aux États-Unis, un tribunal a suspendu jusqu'à lundi prochain la décision de Donald Trump de geler plusieurs centaines de milliards de dollars d'aide fédérale.
Principalement des subventions et des allocations. Résultat, l'assurance santé des Américains les plus pauvres était inaccessible durant plusieurs heures. Le paiement des hôpitaux et médecins a été bloqué, une situation qui a semé la confusion dans le pays. Les précisions à Washington pour RFI de Guillaume Nodin.
C'est jour de rentrée à la Maison-Blanche, la salle de presse est comble pour le premier rendez-vous du mandat avec la nouvelle porte-parole et les premières questions portent sur le gel massif des financements décidés par l'administration qui crée de l'inquiétude et de la confusion. Caroline Leavitt tente de rassurer.
Si vous recevez une aide individuelle du gouvernement fédéral, cela va continuer. Cependant, il est de la responsabilité de ce président et de cette administration d'être les gardiens de l'argent du contribuable. Le président Trump a fait campagne là-dessus. C'est pourquoi il a lancé le DOGE, le ministère de l'efficacité gouvernementale. Et c'est pour s'assurer que chaque centime déboursé n'entre pas en contradiction avec les décrets que le président a pris. Le président prend soin de vous parce qu'il est le gardien de l'argent du contribuable.
Sauf que dès l'annonce, les services de l'assurance santé pour les plus démunis de plusieurs États ont cessé de fonctionner. Cela concerne tout de même plus de 70 millions d'Américains. Les responsables de l'administration font savoir que la situation va être rapidement réglée. La décision est de toute façon déjà bloquée à la suite de l'action en justice de plusieurs États démocrates. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Les États-Unis qui veulent tout faire pour que le Hamas ne gouverne plus jamais dans la bande de Gaza.
C'est Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, qui l'a affirmé hier dans l'enclave. Au moins 376 000 Palestiniens sont rentrés depuis lundi dans le nord, selon les Nations Unies, région ravagée où tout manque et où le rôle de l'UNRWA est essentiel. Le chef de l'ONU a d'ailleurs demandé hier soir à Israël de renoncer à son interdiction. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est censée arrêter ses activités à partir de demain à Jérusalem, une interdiction qui risque de compromettre toute l'aide apportée aux Palestiniens. Les précisions à Genève de Jérémy Lange.
Les missions de l'UNRWA vont de la santé à l'aide humanitaire en passant par l'éducation, son cœur d'activité. Israël souhaiterait que d'autres agences désormais s'en chargent, mais personne dans la galaxie onusienne n'est capable de la remplacer auprès des quelques 6 millions de réfugiés palestiniens de la région. Le nom du programme des Nations Unies pour le développement revient souvent dans la presse israélienne. Problème, si le PNUD a bien 23 000 employés, c'est pour 170 pays. C'est aussi exclu pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires qui, comme son nom l'indique, coordonne seulement l'aide, mais n'en est pas responsable. Jens Lark, son porte-parole, a encore redonné son sentiment hier à Genève.
On soutient totalement l'UNRWA. C'est la colonne vertébrale de toutes les opérations humanitaires. Pour la logistique, la santé, l'éducation, personne ne peut remplacer l'UNRWA. Il y a encore des milliers d'employés qui travaillent sur place. Il y en a des centaines qui sont morts à leur poste depuis 15 mois. L'UNRWA est un rouage essentiel de l'humanitaire. Elle doit rester.
L'UNRWA, c'est à peu près 30 000 employés, un peu plus de 5 000 qui travaillent au bureau de Jérusalem. Mais le sort de leurs collègues dans le reste des territoires occupés est également en suspens. Car comment distribuer de l'aide à Gaza avec le tampon UNRWA si celui-ci n'est plus reconnu par Israël ou si les comptes bancaires de l'agence sont bloqués? Aujourd'hui, la moitié de l'aide alimentaire qui parvient aux Gazaouis l'est par le biais de l'UNRWA. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Il évoque les traditions, l'héritage culturel et spirituel des ancêtres.
Le Premier ministre slovaque Robert Fico continue sa croisade contre les LGBT+. Son gouvernement a publié hier une proposition d'amendement à la Constitution pour restreindre leurs droits. De quoi jeter un peu plus d'huile sur le feu alors que des milliers de manifestants qui contestent son rapprochement avec la Russie réclament sa démission. Carlota Morteo.
Nous avons deux sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Voilà ce qui est écrit dans la proposition gouvernementale d'amendement de la Constitution slovaque. Mot pour mot, c'est la formule déclamée par le président américain Donald Trump dans son discours d'investiture. Ce texte rendrait impossible le changement de genre en Slovaquie, ainsi que les thérapies de conversion. Le Premier ministre nationaliste s'est déjà attaqué lors de son précédent mandat au mariage homosexuel, interdit depuis 2014, quand la Constitution a été réécrite pour définir le mariage comme une union exclusive entre un homme et une femme. Depuis, les couples homosexuels ne peuvent plus adopter un enfant. Cette énième proposition anti-LGBT+, va être débattue pendant un mois. Elle stipule aussi que ce n'est pas le droit européen qui devrait primer sur ces questions considérées comme culturelles et éthiques, mais que c'est Bratislava qui devrait avoir le dernier mot. Un retournement des principes juridiques qui pourrait mettre la Slovaquie en infraction vis-à-vis des traités européens, comme l'ont été la Hongrie et la Pologne avant elle.
Carlota Morteo.
RFI 6h08 à Paris, en France. À deux ans de la prochaine présidentielle, la France insoumise se lance déjà dans la bataille.
Le parti de Jean-Luc Mélenchon a présenté hier une version actualisée de son programme. Objectif, prouver qu'il est prêt en cas d'élection anticipée. Victorien Vuillaume.
C'est leur stratégie depuis l'été dernier, marteler que seule une démission d'Emmanuel Macron permettra la fin du blocage politique. Mathilde Panot.
Il n'est pas sérieux de penser que la France va avoir un gouvernement qui chute tous les deux mois. Si on regarde les 30 mois de mandat qu'il devrait rester à Emmanuel Macron, il faudrait à peu près 10 Bayrou et Barnier pour arriver à la fin de ce mandat.
Si les Insoumis proposent une centaine de nouvelles mesures dans leur programme sur la concentration des médias, la petite enfance, l'occasion est belle surtout de s'afficher comme le parti prêt à exercer le pouvoir, Clémence Guettet.
On a dit et répété qu'on demandait sa destitution et donc il nous faut être prêts pour chaque éventualité, c'est-à-dire une présidentielle anticipée.
Et de s'afficher comme le seul parti, y compris à gauche, qui a fait un réel travail programmatique. Jean-Luc Mélenchon.
Ça nous donne l'occasion de sourire en entendant d'autres forces politiques se proclamer candidat à la présidentielle, force de gouvernement, quoique aucun d'entre eux n'ait jamais présenté le début du commencement d'un programme. Et pour parler de nos partenaires, c'est particulièrement évident.
Les Insoumis travaillent également à la collecte des 500 promesses de parrainage indispensables pour la présidentielle. Ils affirment en avoir récolté pour l'instant autour de 150.
Victorien Villaume.
À Wall Street, c'est panique à bord en ce moment, alors que les bourses asiatiques, elles, restent dans le vert.
En cause, l'arrivée de DeepSeek, le chinois et son agent conversationnel, développé avec seulement quelques millions de dollars et désormais rival de l'incontournable ChatGPT américain. C'est un geek, Liang Wenfeng, qui l'a créé. La correspondance à Pékin pour RFI de Cléa Broadhurst.
L'ascension spectaculaire de DeepSeek place son fondateur Liang Wenfeng au cœur de l'attention. Né en 1985 à Zhangjiang, dans le Guangdong, Liang est décrit comme un idéaliste technologique, passant ses journées à lire des articles, écrire du code et participer à des discussions de groupe. Passionné par la modélisation mathématique, il intègre l'université de Zhejiang en 2002, où il obtient un master en ingénierie de l'information en 2010. Durant la crise financière de 2008, Liang explore l'apprentissage automatique appliqué au marché financier. Ce travail jette les bases de sa carrière. En 2016, il cofonde le fonds spéculatif Highflyer, connu pour ses stratégies d'investissement basées sur l'intelligence artificielle. Ce fonds devient plus tard la principale source de financement de DeepSeek. Liang achète dès 2021 des milliers de processeurs Nvidia avant les restrictions d'exportation de puces américaines d'IA vers la Chine. En 2023, il lance DeepSeek avec un objectif ambitieux, développer une intelligence artificielle générale équivalente à celle de l'humain. Liang mise sur des logiciels libres pour démocratiser l'intelligence artificielle. Son travail redéfinit les paradigmes technologiques et alimente le débat sur l'équilibre des puissances mondiales en matière de pouvoir technologique. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Et DeepSeek, on y reviendra dans le journal de 8h, heure de Paris, ce sera votre dossier.
On termine en musique, Alban, avec la sortie vendredi du nouvel album de Jupiter Bokonji et son groupe Okwes.
Ça s'appelle Ekoya, ça viendra en ligne à la quatrième album pour le groupe qui mêle toujours funk, rock et soukous congolais, Pierre Vallée.
Jean-Pierre Bokonji, dit Jupiter, a toujours été tiraillé entre deux forces. Fils d'un diplomate congolais, il a grandi à Berlin-Est, où il a appris l'allemand et le rock'n'roll. Mais dès qu'il rentrait au pays, il était pris sous l'aile de sa grand-mère guérisseuse qui maîtrisait les élixirs et les chants magiques. Après son épisode allemand, il rentre une bonne fois pour toutes à Kinshasa, où il se reconnecte avec les musiques traditionnelles et s'emploie à étudier les rythmes des 450 ethnies du pays. Jupiter est un groupe atypique, car après avoir tourné dans le monde entier, ils sont probablement plus célèbres à Paris ou à Washington qu'à Kinshasa. Un groupe ambitieux aussi qui s'est donné comme objectif de représenter musicalement tout le Congo et de dépasser les styles incontournables que sont la rumba, le dombolo, le soukous, voire le rap. Un disque qui ne surprendra peut-être pas ceux qui connaissaient déjà, sur lequel Jupiter continue d'exploiter une recette qui a fait son succès, une énergie communicative appuyée par un groove efficace et entraînant sur lequel Jean-Pierre Bokonji pose sa grosse voix de baryton.
Pierre Vallée.
Et Pierre Vallée reviendra à 8h52 tout à l'heure pour nous en parler. C'est notre choix musical aujourd'hui. Merci Alban Le Prince. 6h13 à Paris, RFI Matin. On est ensemble jusqu'à 9h, 3h d'information avec des chroniques, des invités, des reportages, nos journaux chaque demi-heure. Ce matin, on va évidemment beaucoup revenir sur la situation en RDC, la violence à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'Est du pays, en proie aux affrontements meurtriers entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise, aidée de ses alliés. Goma, ville autrefois refuge pour des centaines de milliers de personnes qui, à nouveau, pour certaines, ont dû fuir. Hier, ils sont plusieurs à avoir rejoint le Rwanda.
Le seul chemin qu'il y avait, c'est le Rwanda. Alors, on n'avait pas trop le choix. On a décidé de venir ici et voir s'il y aura au moins les chemins pour arriver de l'autre côté du pays, puis aller à Bukavu. C'est ça les plans, quoi.
Reportage de Lucie Mouillot que l'on appellera dans le journal de 7h. Cette situation qui suscite l'inquiétude du monde, de l'ONU, mais aussi des organisations humanitaires. Ce matin, nos invités sur RFI dans une demi-heure, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC. Et puis à 7h20, Arnaud Pontus interroge François Morillon, chef de délégation du CICR en République démocratique du Congo. RFI Matin au programme aussi ce mercredi, les pays de l'AES officiellement aujourd'hui en dehors de la CEDEAO. On va aussi parler des États-Unis, de la Syrie, de Gaza, avec le retour des déplacés qui continuent dans le nord de l'enclave palestinienne, la Serbie, l'Inde, mais aussi la France. Vous avez une partie du programme, on peut commencer. Et on commence par la Chine, notre matinée où l'événement le plus important de l'année débute aujourd'hui, le nouvel an lunaire. Ça concerne la Chine en elle-même bien sûr, mais aussi les communautés chinoises du monde entier. Marquant la première nouvelle lune du calendrier lunaire, le nouvel an lunaire donne le coup d'envoi de la fête du printemps qui dure 15 jours. Les célébrations varient en fonction du pays ou de la région, mais il existe quelques traditions communes. On en parle ce matin avec notre envoyé spécial permanente à Pékin. Cléa Broderst, bonjour. Cléa, c'est donc l'année du serpent qui débute aujourd'hui. Comment est-ce que ça se matérialise ?
Eh bien, depuis quelques jours déjà, on remarque une certaine surabondance de rouge dans tout Pékin. Des petites lanternes accrochées un peu partout. Les festivités vont bel et bien commencer. Et dans la culture chinoise, le serpent est considéré comme un symbole de sagesse, d'intuition et de mystère. De Xiang Liu, le serpent à 9 têtes du livre des Monts et des Mers, au conte populaire La Légende du Serpent Blanc, en passant par les diverses représentations de démons au cinéma et dans les films d'animation, les serpents sont tantôt représentés comme des figures aimables et reconnaissantes, tantôt comme des symboles du mal et de la ruse. Ce sont de véritables créatures qui évoquent à parts égales l'amour et la haine. Et en même temps, comme les serpents peuvent perdre leur peau, ils ont aussi la signification de résurrection et de renaissance, ce qui en fait un symbole de forte vitalité et de longévité.
Et donc Léa, comment est célébré ce nouvel an lunaire ?
Lors des célébrations du Nouvel An chinois, le signe en question influence les coutumes et les superstitions traditionnelles. Les personnes nées au cours d'une année serpent sont censées connaître leur Ben Mingnian, qui est considérée comme malchanceuse. Et pour conjurer le mauvais sort, ils portent souvent des vêtements et des accessoires rouges ou des amulettes de jade tout au long de l'année. Alors beaucoup disent qu'il ne faut pas non plus se laver ou se couper les cheveux le premier jour de la nouvelle année. Pourquoi ? Parce que le caractère chinois du mot cheveux est le premier caractère du mot prospérité et par conséquent, quand le fait de se laver ou de se couper les cheveux est perçu comme une perte de fortune. Et qui dit Nouvel An dit retrouvailles en famille. Le menu est soigneusement choisi pour inclure des plats associés à la chance, notamment du poisson. Le mot chinois qui le désigne ressemble aussi à un surplus, des douceurs qui symbolisent l'avancement et des aliments qui ressemblent à des lingots d'or comme les dumplings.
15 jours donc de célébration en tout, Cléa.
Oui, avec comme point d'orgue la fête du printemps, la fête des lanternes, qui aura lieu cette année le 15e et dernier jour, le 12 février. Appelée Yuan Xiaojie en chinois mandarin, elle est considérée comme la fin parfaite des préparatifs et des célébrations du nouvel an lunaire qui dure depuis des semaines. Et le festival des lanternes célèbre la première pleine lune de l'année, d'où son nom Yuan, qui signifie début, et Xiao, qui signifie nuit. Tout ça s'est transformé en une célébration publique de la lumière et de la communauté, symbolisant les retrouvailles, l'espoir et l'abandon de l'année écoulée. Et enfin, cette célébration marque la fin de l'hiver et le début de la saison printanière.
Cléa Broderst, envoyée spéciale permanente de RFI à Pékin pour la Une en Asie. Merci Cléa, RFI Matin. Dans un peu plus de 10 minutes, le retour de l'information africaine et à la Une, la République démocratique du Congo, les violences à Goma. Très forte et l'inquiétude tout aussi forte des organisations humanitaires. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et justement ce matin, votre grand invité international, François Morillon, est chef de délégation pour le comité international de la Croix-Rouge en RDC.
Oui, il nous dira en direct quelle est la situation à Goma ce matin. Les équipes humanitaires sur place s'inquiètent du degré de violence dans la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Elles tentent de prendre en charge les nombreux blessés et constatent qu'une fois de plus, les populations civiles se retrouvent au cœur des affrontements armés. Le travail des personnels médicaux est particulièrement difficile. Certains ont été blessés, des ambulances prises pour cible et des stocks de médicaments pillés. On s'inquiète aussi pour un laboratoire noire de Goma, le laboratoire de l'Institut National de Recherche Biomédicale, où sont entreposés des échantillons du virus Ebola. Face à cette situation extrêmement tendue et volatile, le CICR appelle une fois encore au respect du droit international humanitaire. On en parle avec François Morillon tout à l'heure.
À tout à l'heure Arnaud, 6h20 en universel pour cet entretien. 70 2022, quelques mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, une ambulance ukrainienne est la cible de tirs russes dans la région de Kharkiv. Depuis, le véhicule marqué par ces tirs sillonne l'Europe pour témoigner des atrocités de la guerre qui va entrer dans quelques semaines dans sa troisième année. Un projet humanitaire baptisé AMF, Ambulance Mitraillée France-Ukraine, qui rassemble plus de 45 associations, dont Pharmaciens Sans Frontières, et qui pendant deux jours a fait escale sur la place du marché à Sucy-en-Brie, en banlieue parisienne. Sylvie Coffi, reportage.
Allez, à bientôt, merci. Slava Ukraini !
Patrick Angelvi est secrétaire général de Pharmaciens Sans Frontières dans le Val-de-Marne.
Slava Ukraini, ça veut dire gloire à l'Ukraine. Et les gens répondent Yeroim Slava, au héros la gloire. Et ça montre un petit peu leur résistance et leur courage.
Résister et surtout ne pas les oublier, c'est le message porté par cette ambulance qui sillonne l'Europe. Pour Patrick Angelvi, c'est un témoin précieux.
Quand on voit un trou, deux trous de balles, trois impacts de balles, on peut toujours dire que ce sont des balles perdues. Là, quand il y en a, je crois, 402, on peut quand même comprendre effectivement la façon dont M. Poutine lit la Convention de Genève qui indique qu'on ne tire pas sur les ambulances. Et en même temps, cette ambulance, c'est le symbole de la résistance et le symbole du courage des Ukrainiens. Et je veux dire que cette ambulance, elle dit rien. Elle parle pas et pourtant, elle nous interpelle. Je veux dire que cette ambulance est un véritable cri silencieux qu'elle nous lance pour nous interpeller sur le drame que vivent ces gens à moins de 2 heures d'avion de chez nous. C'est pas acceptable. Ça nous permet, en montrant ce qui se passe, de pouvoir lever des fonds pour acheter plus d'ambulances.
Un spectacle qui ne laisse personne indifférent. Sur la place du marché, certains s'arrêtent, observent et ont du mal à trouver les mots.
Quand je l'ai vu et j'ai pu toucher les impacts des balles, c'est assez effrayant. Voyez, c'est une expérience malheureuse, mais indispensable pour les gens qui vivent ici, loin de la guerre et loin des atrocités.
C'est une horreur, bien sûr, la guerre est une horreur, on sait bien. Hein. C'est lamentable qu'au XXIe siècle, on soit si peu civilisé encore. C'est pour ça que c'est un véritable désespoir.
C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors, parfois, on le voit à la télé, on le voit dans les films, mais là, c'est réel. C'est vrai que c'est assez choquant et ça parle aussi.
On ne devrait plus vivre toute cette guerre.
Je viens voir l'ambulance qui a été mitraillée copieusement. Je suis effaré.
À quelques mètres de l'ambulance, un petit groupe d'Ukrainiens collecte de l'argent pour financer de nouveaux véhicules de secours. Parmi eux, Elisabeth. Elle fait partie des 50 familles qui ont été hébergées à Sucy-en-Brie au tout début de la guerre. Aujourd'hui, elle étudie l'histoire à la Sorbonne.
En fait, mon appartement a été bombardé, donc je peux pas revenir. Et pour le moment, pour l'instant, je suis en France, je suis à l'université et je reste ici. J'apprends la langue, je vois mon avenir ici, en France.
Après des escales dans plusieurs villes de France, l'ambulance mitraillée repartira en avril en Espagne.
Un reportage de Sylvie Coffi. RFI Matin, notre question d'environnement à présent. Pourquoi faut-il préserver davantage les vieux animaux? Une étude parue récemment dans la revue Science apporte un regard nouveau sur le rôle crucial de ces vieux animaux pour la biodiversité. Pour les auteurs de l'étude, cette catégorie d'âge est menacée et a besoin de protection particulière. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que les vieux animaux sont plus menacés que les jeunes?
Oui, grâce à la compilation d'innombrables travaux de recherche, les scientifiques remarquent que les classes d'âge les plus élevées d'un très grand nombre de populations animales ont décliné ou été éliminées sous l'effet des activités humaines. Et ces animaux âgés, eh bien, sont souvent les plus gros. C'est vrai, chez les poissons qui grandissent toute leur vie, leur taille a diminué en raison de la surpêche. Mais c'est également vrai pour les animaux terrestres. Les plus gros, et donc les plus âgés, sont chassés en priorité pour se nourrir ou pour le prestige. Les amateurs de chasse aux trophées, par exemple, privilégient les animaux animaux imposants pour faire une belle photo. Ceux qui chassent pour se nourrir également. Tuer un bison ou un éléphant permet de se nourrir pendant des semaines et demande moins d'efforts par calorie que de courser un lapin. C'était déjà le cas du temps des chasseurs-cueilleurs, en témoignent les peintures rupestres dans les grottes qui représentent toujours de grands animaux, chevaux, mammouths, mais jamais des petits.
Alors avec cette étude, les chercheurs remettent en cause la notion de sénescence en biologie. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, la sénescence est un processus physiologique de dégradation des cellules. Pour schématiser, on pensait que plus un animal vieillit, plus ses cellules se dégradent. Or, les chercheurs ont montré que sénescence et vieillissement ne sont pas synonymes. Chez les poissons, par exemple, il y a bien vieillissement, mais peu de sénescence. Leur fertilité accroît même avec leur poids et donc avec leur âge, puisqu'ils grossissent toute leur vie. En pêchant principalement de gros poissons, on se prive des animaux les plus fertiles et donc de tout un patrimoine génétique important. Et aujourd'hui, bien les poissons sont affaiblis sur le plan reproducteur.
Cette étude montre que même chez les animaux qui connaissent une réelle sénescence, les vieux individus jouent un rôle essentiel pour la survie de l'espèce.
Oui, et les chercheurs parlent même de sagesse de ces vieux individus. Une des scientifiques étudie les éléphants dans un parc au Kenya. Elle a montré que le leadership dans un groupe d'éléphants est toujours assuré par de vieilles matriarches. Elles ont des connaissances et une expérience sociale qui profitent à l'ensemble du groupe. Elles connaissent leur territoire, les points d'eau, les dangers. Elles enseignent aux petits à se protéger des prédateurs. Elles parviennent à régler les conflits entre éléphants. Bref, elles ont un rôle fondamental. Et puis grâce à elles, eh bien les éléphants parcourent de grandes distances puisqu'elles connaissent leur territoire. Et ce faisant, elles participent à la dissémination des graines sur de grandes distances et permettent donc la régénération de la végétation. Pour tous ces services rendus, les chercheurs estiment que la longévité des animaux devrait être une composante de la biodiversité qu'il faut absolument défendre. Nos vieux animaux sont des sages qui nous rendent des services. Regardons-les différemment.
Igor Strauss pour la question d'environnement. Merci beaucoup RFI. Vous restez dans 4 minutes le journal, mais d'abord un peu de musique. C'est sur notre playlist ce mois-ci. Théophile au chantre, ma petite musique.
Ma petite musique à des pianos Pastrale, et la touche métallique du soleil qui rend dingue. Elle enroule les saisons dans des herbes qui piquent et se moque des chardons. Ma petite musique à des roseaux penchés sur des chemins jaunis par les berges arrachées. Elle suit les remorqueurs qui tirent des cargos rouges dans les bras des dockers que les algues barbouillent. Ma petite musique est musique de nuit et me parle d'Afrique quand ici je m'ennuie. Mais elle enchante aussi cette ville grise et ses briques. Quand le blues me poursuit au concert des tropiques. Mais elle enchante aussi cette ville grise et ses briques. Quand le blues me poursuit au concert des tropiques. Ma petite musique transpire la sueur des pores, le sel, les coups de trique du vin, beaucoup trop fort.
Ma petite musique par Théophile au Chantre, c'est à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute sur la playlist RFI de ce mois-ci. Restez avec nous dans une minute, l'information africaine, la RDC à la une. Et n'oubliez pas aussi notre live dédié à ce qu'il se passe à Goma. Rendez-vous sur le www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
reconnaître les symptômes de la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises douloureuses.
Demain,
journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Les contes ne se racontent pas seulement au coin du feu ou sous le baobab, ils s'illustrent, s'écrivent en bande dessinée et sont à l'honneur de la 52e édition du Salon de la BD d'Angoulême. Car il y a les contes traditionnels mais aussi des créations comme Émile et Margot qui font fureur chez les enfants.